Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Le journal dans RFI Matin avec Édouard Dupénoat. Bonjour Édouard.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
L'actualité africaine entre le Niger et la Libye, des dizaines de personnes disparues le mois dernier et toujours pas de nouvelles.
La société civile nigérienne s'alarme de ce qui semble être un enlèvement de masse. Mais dans quel but? Où sont ces civils capturés en Libye? Sont-ils seulement encore en vie? L'Afrique veut filer un très bon coton. On revient au Bénin pour ce forum qui réunissait des centaines d'acteurs de la filière. Parce que le coton africain a de quoi jouer sa partition face aux mastodontes mondiaux. Jour de vote au Mozambique, triple élection, dont la présidentielle. Le duel maintes fois rejoué, Frelimo-Renamo peut-être en passe d'être blackboulé. Rigathi Gachagua tout proche d'être destitué, les députés kényans adoptent largement la motion qui vise à faire tomber le vice-président. Elle doit encore passer le suffrage des sénateurs. Vive colère à Yaoundé, les autorités démentent sèchement les rumeurs sur la santé du président Paul Biya. Il vaque à ses occupations à Genève, dit le gouvernement, de retour prochainement au Cameroun. Et puis un galérien du bitume enfin en majesté, l'histoire de Souleymane sort aujourd'hui en France au cinéma après avoir conquis le Festival de Cannes et Elisabeth Le Guéret. Le sort de ressortissants nigériens enlevés en Libye, objet de toutes les craintes de la société civile. L'ONG Alternative Espace Citoyen essaye de braquer l'attention sur le sort de ces personnes kidnappées dans la localité de Chouaraf début septembre. Leur nombre exact n'est pas connu. L'ONG parle de plusieurs dizaines de personnes enlevées par des hommes armés. Au moins l'un d'entre eux serait mort. Le sort des autres est très incertain. Il semble que certains aient été envoyés travailler de force avant d'être libérés par leur employeur, d'autres ne donnent plus aucune nouvelle. Dans le passé, Alternative Espace Citoyen avait alerté sur des cas d'enlèvement de Nigériens contre rançon, mais cette fois-ci les faits sont encore plus obscurs, c'est ce que nous explique Yahya Badamassi, coordonnateur régional de cette ONG à Zinder.
Des éléments armés qui appartenaient à l'une des factions en Libye ont fait irruption dans les camps où logent les migrants nigériens. Ils ont tous été regroupés dans un camp où ils ont subi des actes de torture, de brimades. Un Nigérien a voulu s'évader. Il a été intercepté par ses forces. Ils l'ont soumis à des actes de torture qui lui ont coûté sa vie. Donc les autres compagnons d'infortune ont été conduits jusque-là en des lieux inconnus. Il y a ceux qui ont été libérés, parce que la plupart des compatriotes en Libye travaillent dans les jardins, dans les ateliers, dans les chantiers de construction. Et donc, ils ont des patrons libyens qui, dans ce genre de situation, interviennent pour libérer nos compatriotes. Étant même libres, ces compatriotes vivent dans la psychose totale. Ils sont inquiets de leur sort et du sort de leurs camarades. Aujourd'hui, sans nouvelles.
Yahya Badamassi coordonne l'ONG Alternative Espace Citoyen pour la ville de Zinder. Il répondait à Magali Lagrange. L'ONG qui demande aussi aux autorités de Niamey de tout faire diplomatiquement pour régler cette situation. Sur le Niger toujours, les derniers bilans humains des inondations ont été revus encore à la hausse. 339 personnes sont mortes depuis le mois de juin. Plus d'un million ont été sinistrés par ces très fortes pluies et les crues qui en ont suivi, ce sont des chiffres donnés hier par l'agence nigérienne de presse. Tout le beau linge mondial du coton réuni ces derniers jours à Cotonou, la capitale économique béninoise, accueillait 400 acteurs mondiaux de cette filière, forum qui coïncide avec la journée mondiale du coton et qui, pour la première fois, se tenait sur le continent africain. Parler du coton en Afrique, c'est impossible sans avoir en tête les 5 plus gros producteurs, le Bénin, le Mali, le Burkina, le Tchad et la Côte d'Ivoire, le groupe dit des C4+. Tous ensemble pour réclamer que le continent profite davantage des richesses de cette matière première. Jean-Luc Aplogan.
Les producteurs africains ont saisi l'occasion pour rappeler avec insistance que l'Afrique ne profite pas assez de son or blanc. Le groupe des 5 premiers producteurs et exportateurs du coton africain regrette cette réalité. Des experts nationaux ont réfléchi à la bonne stratégie. La première anomalie à corriger est la situation des paysans. Consultés, ils formulent une requête que résume l'ancien ministre malien du commerce et de l'industrie, Haruna Niang.
Ils veulent que l'activité qu'ils mènent soit reconnue par le marché, par les politiques, et qu'ils aient de manière équitable la part qui leur revient Le coton pour eux, c'est leur vie, la vie de leurs enfants, leur avenir.
Certains experts et négociants européens pensent que les paysans vont gagner plus en augmentant leur rendement à l'hectare. Shadia Assouman, ministre du Commerce du Bénin, privilégie l'option de la transformation locale.
L'exploitation du coton ne peut pas être un produit de lutte contre la pauvreté, mais plutôt l'exploitation du coton transformé.
Le taux de transformation du coton brut en Afrique est faible. D'ici à 10 ans, il faut le porter à 25 ou 50% pour les plus ambitieux. Le Bénin, lui, rêve d'arriver à 100%. Le pays est dans la dynamique de la transformation depuis 2020. Il a été créé une zone industrielle pour la transformation des produits agricoles. Jean-Luc Aplogan, Cotonou. RFI.
Comment le coton africain peut-il se démarquer face aux producteurs géants du reste du monde? Le négociant Armand Ezerzer était hier notre invité pour en parler plus en longueur. Une des explications que vous pouvez réécouter sur notre appli RFI Pure Radio. 17 millions d'électeurs attendus dans les bureaux de vote, triple élection et des jeux plus ouverts que jamais. Le Mozambique vote aujourd'hui. Présidentielle, législative et élections provinciales. Depuis son indépendance, en 1975, le pays est très largement polarisé entre deux forces distinctes, le Frelimo, parti au pouvoir depuis cette date, et la Renamo, ancienne rébellion armée. Mais pour la première fois, Gaël Lalex, d'autres forces pourraient bien venir perturber ce duel annoncé.
C'est à la surprise générale que le Frelimo a désigné Daniel Chapo comme candidat. Cet ancien présentateur télé de 47 ans, né après l'indépendance, n'a pas combattu lors de la guerre civile de 75 à 92, ni occupé de place majeure dans l'appareil du parti. Certains y voient le choix du renouveau, d'autres une marionnette manipulable par les éléphants du Frelimo. Face à lui, Ossoufo Momad, 63 ans, ancien général de la Renamo, et Lutero Simangu du mouvement démocratique du Mozambique, troisième force politique du pays. Mais la vraie menace pour Daniel Chapo reste le candidat indépendant Venancio Mondlane. Cet ancien de la Renamo jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse mozambicaine. Il est aussi soutenu par le parti Podemos, composé d'anciens déçus du Frelimo. Son élection à la mairie de Maputo lui a été volée l'année dernière par les institutions électorales, selon Borges Namiré, chercheur pour l'Institut des études de sécurité. La transparence sera l'un des grands enjeux de ces élections. 12 000 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités. Ossoufo Momad prévient, nous voulons des élections justes. Dans ce cas seulement, il n'y aura pas de conflit. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Notre correspondante régionale qui signe des explications plus complètes aussi sur cette élection à lire sur RFI.fr. La guerre continue de faire rage autour de la ville d'El Fasher dans l'ouest du Soudan. Cette localité est la dernière du Darfour qui ne soit pas aux mains des forces de soutien rapide. Elles en pilonnent les environs ainsi que plusieurs quartiers résidentiels depuis des semaines. Une vingtaine de civils ont été tués depuis le début de la semaine, notamment dans le bombardement d'un camp de déplacés. RFI 7h38 à Paris, une heure de plus à Nairobi. La procédure de destitution du vice-président kényan franchit une étape clé. L'Assemblée a largement adopté hier la motion qui lui était présentée pour savoir si oui ou non Rigathi Gachagua devait être maintenu dans ses fonctions. 11 motifs de destitution ont été soumis aux députés, notamment des accusations de corruption et d'insubordination envers le président Ruto. Complot politique et pure propagande, dit le vice-président, qui s'est débattu vigoureusement devant les députés, mais donc sans succès, Alban Tiroir.
Pendant près de 2 heures, le vice-président a tenté de se défendre face aux députés. Cette motion de destitution lui reproche, entre autres, des faits de corruption, d'avoir incité à la division ethnique ou encore d'avoir fait preuve d'insubordination envers le président. Rigathi Gachagua a rejeté ces accusations dans le détail avec un épais dossier monté par ses avocats présentant diverses vidéos et documents. Il a nié par exemple son implication dans un scandale de corruption d'approvisionnement de moustiquaires. Il s'est aussi défendu d'avoir accumulé de manière inexplicable un patrimoine immobilier colossal estimé à 36 millions d'euros. Plusieurs propriétés correspondraient selon lui au patrimoine de son frère défunt. Mais ces explications n'ont pas réussi à convaincre les membres de l'Assemblée nationale présents qui se sont prononcés dans la foulée. 281 d'entre eux ont voté en faveur de sa destitution, bien au-delà des 233 voix nécessaires. Seuls 44 députés ont voté contre. La motion de destitution doit désormais être débattue puis votée au Sénat où 2/3 des voix seront nécessaires pour qu'elle soit approuvée. Alban Tiroir, Nairobi. RFI.
Le gouvernement et la présidence camerounaise font entendre leur colère et leur dénégation après les rumeurs sur la santé du chef de l'État. Les absences de Paul Biya à l'Assemblée générale de l'ONU et au sommet de la francophonie ont fait courir toutes sortes de bruits. Hier matin même, un média installé aux États-Unis annonçait que le dirigeant de 92 ans était décédé. Communiqué vigoureux hier soir, tandis que le cabinet de la présidence explique que le président Biya, je cite, « vaque à ses occupations à Genève ». Ferme démenti aussi dans la voix du ministre du Travail, Grégoire Owona.
Les gens cherchent par divers moyens de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État à des fins qu'ils savent. Et moi, j'estime tout simplement qu'ils doivent payer le prix fort en annonçant des mensonges aussi grossiers. Et je pense que dans nos institutions, il y a des mécanismes qui doivent permettre de poursuivre ce genre de personnes, parce que on n'annonce pas le décès d'un chef d'État sans s'assurer de ce qui se passe, sans même avoir appris avant qu'il était malade. C'est une réaction, j'allais dire, de grosse déception par rapport à ces organes de presse qui veulent se faire prendre au sérieux. La justice, le droit, la législation prévoit des sanctions contre ceux qui diffusent des fausses nouvelles, ceux qui diffament, ceux qui veulent créer des troubles à l'ordre public. Vous savez vous-même que ça, c'est le genre de nouvelles qui peuvent créer n'importe quel désordre à l'ordre public. C'est ça que j'appelle payer le prix fort.
Le ministre Grégoire Owona avec Sidi Yansané. Le gouvernement camerounais conclut son communiqué en annonçant enfin que Paul Biya rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. Ils sont les forçats du bitume, enfin, à qui, dans le meilleur des cas, les clients prêtent très peu d'attention. Souleymane en fait partie. Il est livreur à vélo, guinéen d'origine, et nuit et jour, il convoie dans Paris les commandes des uns et des autres. C'est une fiction, en l'occurrence, l'histoire de Souleymane. Elle sort aujourd'hui, en France, au cinéma, un film de Boris Lochkine, où tout sonne très vrai, à commencer par l'histoire du protagoniste. Prix du jury et prix du meilleur acteur dans la section Un certain regard du Festival de Cannes, Elisabeth Le Quéret nous en parle.
En 2019, Boris Lochkine traçait dans Camille le portrait de la photographe Camille Lepage, tuée en Centrafrique à l'âge de 26 ans. C'est un autre visage inoubliable que nous rive sa caméra dans son nouveau film. Sans papier, Souleymane livre des repas à vélo. Le jeune migrant vit dans l'espoir que sa demande d'asile sera retenue. Et pour mettre les chances de son côté, il s'est inventé tout un parcours de réfugié politique.
Souleymane, Mouriani.
Boris Lochkine.
C'est des gens qui sont dans une situation absolument précaire et s'ils ont des papiers, tout d'un coup, leur vie change. Ils peuvent imaginer de chercher un vrai travail, commencer à vivre une vraie vie, alors que tant qu'ils n'ont pas de papiers, ils sont comme en prison.
Devant la caméra de Boris Lochkine, un jeune acteur non professionnel, Abou Sangaré, dont l'histoire résonne avec celle de Souleymane.
Je suis arrivé en France à 16 ans, quand j'ai eu ma majorité, j'ai demandé un titre de séjour, ça a été rejeté et je sais ce que ça fait d'attendre ces papiers ici, à ce niveau-là. Je me mets dans sa peau.
La première demande de régularisation d'Abou Sangaré a été refusée, la deuxième aussi. Une troisième est en cours qui, celle-ci, a de bonnes chances d'aboutir à la faveur du prix d'interprétation à Cannes et du succès critique du film.
Elisabeth Le Quéret pour l'histoire de Souleymane, réalisée par Boris Lochkine. RFI à Paris, 7h43. RFI Matin, la suite, c'est avec Arnaud Pontus.
Merci Edouard Dupénoit, à tout à l'heure.